L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias version été. Nous profitons du repos annuel d'une partie de l'équipe pour vous faire entendre les versions longues des entretiens et émissions qui nous ont marqués cette année. Avec notre invité, le géographe Boris Baud, nous avons exploré en avril dernier les fins possibles d'Internet. Il ne s'agit pas de science-fiction. Et si nous venions de vivre une sorte d'âge d'or d'Internet utopique fondé sur des rêves d'égalité, et si confronté à la réalité, l'univers numérique était en train de se transformer, se biaiser, s'il était en train de devenir une ombre de ce qu'il fut et de ce qu'il pourrait devenir. Internet est sur le point de disparaître. Entretien avec le géographe Boris Baud, version longue, c'est la rediffusion du jour.
RFI.
Longtemps, l'univers de ceux qui parlent d'Internet et des nouvelles technologies était divisé en deux camps très distincts. D'un côté, les technophiles, fascinés par les possibles qu'offre la mise en réseau des individus, l'horizontalité et la décentralisation des organisations. De l'autre, les technosceptiques, raillant un nouvel univers sans règles, reposant sur une utopie destructrice d'équilibre et de consensus vitaux. Depuis quelques mois, un nouveau courant fait entendre sa voix, celui qu'on pourrait appeler techno-réaliste. Il est porté notamment par des pionniers de l'Internet tels que l'informaticien et musicien Jaron Lanier, qui a tiré donc récemment la sonnette d'alarme dans un livre intitulé « À qui appartient l'avenir ?». En France, ceux qui suivent le blog d'Éric Scherrer ont pu voir depuis quelques semaines plusieurs articles montrant chez cet observateur d'ordinaire enthousiaste une place de plus en plus grande accordée aux méfaits de l'Internet sur l'emploi ou sur la concentration des richesses. Notre invité aujourd'hui vient de publier un petit livre qui a pour titre « Les fins d'Internet ». Un ouvrage qui s'ouvre sur cette phrase extrêmement courte et inquiétante. « Internet a à peine plus de 30 ans ». Et il est sur le point de disparaître. Bonjour Boris Baud.
Bonjour.
Vous êtes géographe, chercheur au sein du laboratoire Coros de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse. Vos recherches portent sur la dimension spatiale d'Internet. C'est déjà un angle d'approche particulier pour étudier le réseau des réseaux, non ?
Effectivement, c'est une approche de géographe, mais pas commun. C'est-à-dire que je ne rentre pas par le territoire. J'essaie d'appréhender Internet comme un espace en tant que tel. Je m'intéresse à ce qui se passe en son sein. Donc c'est pas tant les backbone ou les data centers qui m'intéressent, mais vraiment Facebook, Wikipédia, Twitter ou le site d'une radio comme RFI.
Les fins d'Internet, c'est donc le titre de votre dernier livre, publié aux éditions FIP, F-Y-P. Je veux bien qu'on s'arrête sur plusieurs choix liés à ce titre. D'abord, le pluriel, à fin, les fins, et ensuite le singulier et la majuscule qui est très importante à Internet.
Non, effectivement, rien n'est anodin dans le titre. Alors le fin, avec un S, insiste sur l'ambiguïté du terme, puisque ça renvoie aux finalités, qui est plus évidente avec un S.
Donc l'objectif... Une ambiguïté qui est tout de suite effacée. Hein. Quand on dit en première phrase, c'est un réseau qui a 30 ans et qui est en train de disparaître.
Oui, mais l'ambiguïté demeure parce que le propos du livre, c'est de mettre en tension quand même les finalités et les fins. Le fait qu'effectivement, Internet, c'est un projet, c'est une construction, il y a des personnes qui ont contribué à son développement, avec une idée de ce qu'est la politique qui convient. Et puis, par ailleurs, ce que je souligne, c'est que ces finalités rentrent en contradiction avec d'autres enjeux, d'autres conceptions de la politique. Et c'est la raison pour laquelle on parle de fin, au sens de terminaison. Le S me plaît aussi parce qu'il y en a plusieurs possibles. Il y a plusieurs tensions aussi qui existent actuellement. Donc j'ai essayé de montrer les différentes raisons pour lesquelles Internet actuellement est soumis à rude épreuve.
Le S, c'est aussi une forme d'optimisme, puisque c'est donc les fins possibles, si on l'entend comme fin avec terminaison, et le I majuscule à Internet, qui est essentiel aussi.
La France est un des rares pays à être passé à la minuscule, même si beaucoup ne respectent pas cette consigne, j'en fais partie. Tout simplement parce que Internet, c'est un nom propre, dans le sens où c'est une chose unique, il n'y en a pas d'autre. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose de générique, un concept, comme l'électricité ou autre, parce que souvent on fait des analogies de ce genre, ou le téléphone.
Ou la radio,
c'est un concept, il y en a plein de déclinaisons, en fait. Alors qu'Internet, il n'y a pas plein de déclinaisons. Internet, c'est unique, et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que on doit lui mettre une majuscule pour rappeler son unicité et rappeler à quel point cette unicité, elle est fragile aussi. Et la minuscule, je trouverais que c'est un premier pas vers le danger d'avoir plusieurs internets, ce qui n'a pas de sens.
Alors, je vais beaucoup vous citer parce que votre petit livre est un vivier de petites phrases extrêmement efficaces. Donc, sur cette unicité, cette majuscule du mot internet, vous écrivez ceci. Ce que l'on fait à internet, même localement, on le fait à internet dans son ensemble. Et donc, c'est une manière de dire que si on écrit internet avec une minuscule ou si on met un S aussi, c'est très à la mode en ce moment de dire les internets. Eh bien, c'est comme si, quand on touche au réseau dans un pays, eh bien, ça n'affecte pas l'ensemble du concept. Alors qu'en gardant la majuscule et en insistant sur le nom propre, c'est une manière de dire tout ce qu'on fait quelque part, en Turquie, par exemple, où récemment on a coupé Twitter et YouTube, eh bien, ça affecte le réseau, ça affecte internet.
Complètement, ça affecte l'intégralité d'Internet, le fait que normalement c'est une Internet connexion de réseau et en toutes ses parts en fait il est semblable, ce qui n'est plus le cas.
Alors j'ai rappelé dans ma courte introduction la première phrase du livre, il a suffi que je la lise et je me suis dit il faut absolument qu'on invite Boris Baud pour qu'il explique cette phrase. Internet a à peine plus de 30 ans et il est sur le point de disparaître, ça fait peur. Vous l'expliquez dans tout le livre, donc on va revenir sur les idées que vous développez, mais pourquoi avoir ouvert sur cette phrase?
Ben, parce que je crois que ça va plus vite que prévu. Et par contre, la sensibilité est pour l'instant très faible à cet égard. Je dirais que c'est devenu tellement évident, Internet, que nombreuses sont les personnes à penser que c'est évident. Voilà, qu'Internet est évident, que ça va de soi. Comme l'électricité, justement. D'où l'idée même de mettre une minuscule, alors que ça va pas de soi du tout. Pour faire court, Facebook, ça a à peine 10 ans. Google Maps, ça a à peine 10 ans. Les smartphones connectés, moins de 10 ans. Même Google, quoi, 15 ans, c'est rien. C'est-à-dire, sur un temps long des technologies ou des temps de l'humanité, c'est vraiment très très peu.
Des applications qui occupent notre quotidien. WhatsApp, récemment, vendu 19 milliards de dollars, qui avait 5 ans, alors que c'est quelque chose qui est dans nos poches ou dans les poches de beaucoup de gens depuis des années déjà. Enfin, on a l'impression que c'est déjà vieux, tout est extrêmement récent.
C'est ça. Et donc, je pense que de souligner deux choses à la fois, que c'est très récent, que ça change vite et que l'avenir n'est pas du tout assuré, que c'est pas parce que ça s'est imposé très rapidement dans notre quotidien que ça va le rester et que ça va rester tel qu'on le connaît. Donc il y a de commencer par cette phrase, c'est un double objectif. Le premier, c'est de sensibiliser au fait que c'est déjà engagé, cette fin, elle est déjà engagée. Et par ailleurs, de donner envie de prendre ça en main, de se dire, bon ben là, si j'aime Internet ou si je trouve que c'est important dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais face à cette question-là?
Alors pour comprendre justement la fin ou la finalité d'Internet, un peu d'histoire, vous expliquez immédiatement, sans d'ailleurs insister beaucoup dessus, que les idées d'Internet, ce qui a un peu donné naissance à Internet, sont des idées qui précèdent Internet.
Ah oui, alors c'est un point très important pour moi, le fait que c'est un projet donc effectivement qui est récent mais qui s'inscrit dans une pensée plus longue, et le décalage entre ce qu'on peut faire et ce qu'on souhaite faire permet d'expliquer aussi les problèmes politiques qu'on a, c'est-à-dire que ça fait longtemps, par exemple, qu'on souhaite pouvoir se téléporter, on peut pas. Par contre, la télécommunication a une histoire très longue et Internet constitue une étape très très importante en termes par exemple de capacité individuelle. Alors on y reviendra peut-être, mais il n'y a pas antérieurement de technique qui permet à l'échelle du monde à des individus de s'exprimer individuellement. Et par contre, ce sur quoi j'insiste, c'est que c'est un héritage sensiblement des Lumières, donc quand même bon, de 18e, ça date un peu. C'est aussi le moment où la philosophie de l'espace a évolué. On y reviendra peut-être, mais ce qui permet de comprendre qu'Internet est un espace réel, c'est aussi une philosophie de la même époque. Ça s'inscrit aussi dans une idéologie des réseaux. Je dis idéologie au sens pluriel du terme, hein, mais c'est-à-dire vraiment une pensée avec un projet qui pense que les réseaux sont des vecteurs de déficience, qu'il faut que les choses circulent. Et ça s'inscrit donc dans le Saint-Simonisme, ça s'inscrit dans la cybernétique d'après Deuxième Guerre mondiale. Et pour faire très court, cette cybernétique, en fait, elle avait comme idée profonde que il fallait absolument ne pas créer d'entraves à la circulation de l'information. L'information doit circuler pour que les sociétés soient conscientes d'elles-mêmes. Elles aient toujours une idée des feedbacks. Le feedback, la notion de feedback vient de la cybernétique. Et c'était une lutte contre le communisme, essentiellement, à ce moment-là.
Et c'était un peu les leçons tirées de la Deuxième Guerre mondiale.
De la Deuxième Guerre mondiale.
L'Allemagne a dérivé parce qu'il n'y avait pas assez de feedback, donc de retour ou d'analyse venant d'informations qui permettent d'avoir un retour sur ce qu'on fait.
C'est ça, il y a le choc de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, toujours, chez ces ingénieurs, une lutte contre la religion et le communisme. Et cette idée, c'est que, en fait, il faut, dans cet esprit des Lumières aussi, qu'il y ait une libre arbitre, émancipation de l'individu, gestion collective des biens communs, etc. Et Internet, du coup, avant même qu'il soit rendu possible, s'inscrit dans cette continuité. C'est l'idée de créer un dispositif technique qui va rendre difficile finalement l'interception, la centralisation. Et on y reviendra, c'est pas du tout finalement ce qui se passe.
Et notamment dans le contexte de la guerre froide, donc l'idée de ce réseau, c'était que si on touche un des points, un des nœuds du réseau, eh bien le réseau peut continuer à fonctionner. Donc ça, c'est l'origine un petit peu militaire d'Internet. Il y a également une origine universitaire. Et puis, ça évolue. En gros, il y a une trentaine d'années, c'est devenu un réseau public commercial.
Alors effectivement, alors c'est une origine militaire, mais un peu mythique aussi, hein, parce que
avec l'ARPANET.
En fait, effectivement, le financement militaire, la motivation l'était, mais les universitaires se sont servis. Maintenant, c'est assez connu de cet argument pour plutôt faire valoir leur pensée libertaire et de créer des réseaux décentralisés de circulation de l'information. Par contre, effectivement, il y a ce double héritage. On voit comment les militaires et les chercheurs se sont retrouvés dans un but commun qui est de créer un tel réseau.
Et donc ce réseau est arrivé dans nos vies il y a une vingtaine d'années, dans nos vies quotidiennes. Il a évolué à une vitesse incroyable, il a affecté, pas tout, mais une très grande partie des domaines de l'activité, du commerce, de l'économie, des relations, etc. Ça, on en est tous témoins. Et vous avez cette autre formule. La croissance d'Internet fut si soudaine, et si soudaine même, que son emprise sur le monde contemporain s'est faite plus rapidement que notre capacité à identifier l'influence sur nos pratiques. En gros, ça arrive tellement vite qu'on n'a même pas le temps de réfléchir à ce que ça signifie. C'est ça,
très clairement. J'irai même individuellement, même des chercheurs dont je fais partie, doivent y consacrer un temps considérable, hein, parce que là, le changement est vraiment toujours très rapide. Et les politiques aussi l'ont pas vu venir. De très grosses entreprises comme Sony, comme Microsoft, l'ont pas vu venir non plus. Donc on est vraiment face à une dynamique soudaine. Par contre, l'ouverture d'Internet tel qu'il a été conçu a rendu possible ce développement rapide, cette déclinaison d'offres très souple, et on arrive à un moment, c'est l'objet du livre, où se développe précisément de nouvelles pratiques qui créent des conflits d'intérêts, et c'est là que la politique émerge.
Et de nouveaux défis aussi pour l'Internet qui se développe à une vitesse grand V, la cybersurveillance. Alors l'année 2013, c'est l'année de la cybersurveillance. On a découvert que des grandes démocraties, les USA, le Royaume-Uni, surveillaient massivement la planète, avaient toutes sortes de dispositifs, de processus pour surveiller les gens. La censure, évidemment, encore récemment en Turquie, Twitter, YouTube censurés, dans d'autres pays. La panoptique, c'est un mot que vous utilisez également, donc cette crainte ou peut-être aussi cette réalité qui fait que un être ou peu d'êtres peuvent surveiller tout le monde en même temps, et la panoptique, c'est un terme qui est issu de l'architecture, donc il y a une architecture un petit peu idéale ou carcérale, on peut dire, c'est ça?
Exactement. C'est cette idée qu'on peut tout surveiller d'un point central. Alors il y a d'autres déclinaisons du terme, hein, comme cat optique ou autre, mais pour Internet, hein, l'idée que tout le monde se surveille aussi, donc on a une forme de ce que des personnes appellent la sous-veillance, mais ce dont il est question récemment, c'est la surveillance. C'est vraiment surplombant, enfin, l'idée que des gouvernements, des entreprises ont une capacité très asymétrique en fait par rapport aux utilisateurs de surveillance. Alors l'idée que c'est décentralisé en apparence, mais que par contre finalement avec des dispositifs relativement simples, hein, contrairement à ce qu'on imagine, c'est juste qu'il faut avoir accès au dispositif stratégique, eh bien, on peut surveiller très précisément les pratiques individuelles. Et je dirais dans des proportions inédites. On n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité d'une telle capacité à savoir ce que les gens lisent, écrivent, avec qui ils échangent. Et on n'en parle pas assez. Bien sûr, hein, les renseignements américains, britanniques, français, mais aussi Facebook et Google, hein, pour des finalités qui n'ont rien à voir, mais ils ont une capacité de regard sur nos pratiques qui est considérable.
Alors, une des premières approches, une des premières clés pour comprendre cette problématique et puis pour nous permettre à nous aussi d'analyser tous ces enjeux, tous ces défis et ces fins d'Internet, c'est votre approche de géographe. Et vous avez cette formule pour introduire la question de l'espace lié à Internet. Vous avez cette formule. En œuvrant à abolir l'espace, Internet risque finalement d'être aboli par l'espace.
Exactement.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Dans le projet initial, on est vraiment dans une technique spatiale, cette idée que, pour ce qui a trait à la télécommunication en tout cas, Internet va permettre un contact sur de très grandes distances entre les individus. Et c'est une avancée, hein, c'est incontestable, ça permet de s'organiser, de s'informer, de coproduire, etc. Mais du coup, dit autrement, en fait, Internet crée de l'espace. En fait, l'abolit pas du tout, parce qu'en faisant ça, il crée des espaces d'intermédiation, des plateformes, Facebook, par exemple, c'est un espace, mais vraiment au sens fort du terme. Mais par contre, il y a d'autres espaces qui demeurent, et c'est ça le propos du livre, c'est que notre corps, par exemple, peut pas résider sur Facebook, on peut pas manger sur Facebook, on peut pas boire un verre avec un ami sur Facebook, et du coup d'autres espaces demeurent. Et pour l'instant, parce qu'ils sont essentiels, ils ont aussi structuré le vivre ensemble, les civilités, mais aussi il y en a ce qu'il y a des civilités sur Internet aussi, mais surtout la politique, les institutions, et qui décident de ce que l'on a droit de faire ou pas, ce qui ne va pas de soi. Et Internet, pour l'instant, n'a pas les moyens de gérer ça. Et donc, du coup, en créant un espace mondial pour l'humanité, c'est le propos du livre, eh bien, Internet se retrouve en conflit avec plein d'autres espaces plus locaux qui ont finalement des règles de vivre ensemble et qui ne sont pas compatibles avec ce qu'Internet autorise. Et d'où le fait que c'est finalement l'espace au sens large qui risque d'abolir Internet, c'est-à-dire le fait que l'espace demeure et reste une dimension importante de notre existence.
Le paradoxe, c'est que le réseau est extrêmement ou de plus en plus performant, il le sera peut-être 1000 fois plus dans quelques années, mais il est extrêmement performant, ce qui permet à des espaces comme Facebook, comme Twitter, donc de véritables espaces, des lieux où il se passe quelque chose, de se développer d'une manière extrêmement efficace. Et en fait, cette efficacité, ces nouveaux espaces se confrontent à un autre espace tout simple qui s'appelle le monde et qui a aussi une réalité physique qui s'oppose à ces espaces immatériels.
Alors, c'est tout à fait cela. Et on pourrait même parler actuellement d'un conflit de la pluralité de ces espaces au sens large, parce que Twitter et Facebook s'affrontent aussi. Donc c'est même au sein d'Internet hein, qu'on observe des conflits. Je dirais qu'on a une double logique spatiale de mon point de vue, celle d'entreprises qui elles fonctionnent en réseau et veulent s'approprier Internet par des approches réticulaires, c'est-à-dire que Facebook veut que toutes les pratiques passent par leur intermédiaire, veulent tout centraliser, et en faisant ça, finalement elles remettent en cause l'ouverture d'Internet tel qu'il a été conçu. Donc ça, c'est un premier danger auquel on assiste actuellement. Le deuxième danger, c'est d'autres types d'espaces, soit des États-nations par exemple, qui eux ont l'habitude d'être souverains au moins vis-à-vis de leurs citoyens, et là, ils se retrouvent en difficulté parce que très souvent, vous l'avez évoqué pour les résultats d'élections par exemple, Internet propose souvent des façons de contourner le droit, hein, tout simplement.
Alors, je l'ai évoqué hors micro, mais je faisais allusion il n'y a pas de problème, pendant qu'on est en train de parler des élections récentes en France, pendant qu'il y a des élections, on a un hashtag sur Twitter qui est Radio Londres, qui est bien connu, où on va donner des résultats qu'on prend souvent dans d'autres pays, la Suisse, la Belgique, où les médias ne respectent pas l'obligation de silence qu'ont les médias en France. Et du coup, on contourne en fait le vivre ensemble qu'on a décidé ou que les institutions ont décidé ensemble de ne pas communiquer des résultats pour ne pas influencer parfois des gens qui n'ont pas encore voté. Voilà, c'est ça l'idée aussi. Eh bien, on le contourne sur Twitter et ça nous amuse, ça amuse tout le monde, ça amuse les gens qui vont s'informer, mais ça pose question, évidemment, sur la remise en cause par un nouveau mode de communication de règles établies dans un consensus quand même.
Alors, c'est ça, c'est que Internet, finalement, est en train de rappeler à beaucoup de personnes pourquoi on a créé des règles. C'est-à-dire qu'on est en train de réinventer, c'est un peu la politique, de nous rappeler ces règles qui sont devenues complètement tacites, on ne les discute plus, mais pour autant, dès lors qu'on les contourne, eh bien, parfois, Internet nous rappelle que ça n'est pas qu'une avancée, voilà, que les règles ne sont pas que contraignantes.
On marque une courte pause dans l'atelier, on se retrouve de l'autre côté du flash dans 3 minutes, à tout de suite.